Oui, bonjour Emmanuel, les nouveaux chemins, comme vous le dites, commencent maintenant. Alors bonjour à tous et bienvenue, on est ensemble pendant une heure. Hey, you know what? Cette émission est préparée tous les jours par Tristan Grenacia, Géraldine Mosna-Savoie, Geneviève Méric, Laure Andrillon et Marianne Chassor. Elle est réalisée cette semaine par Midia Portis-Guérin avec aujourd'hui, à la prise de son, Bernard Legac et Patrice Klein. À 10h50, vous retrouverez comme tous les jours François Nudelman pour le journal de la philosophie. L'invité du journal aujourd'hui sera Clotilde Le Guil à propos de son livre « Sartre avec Lacan » paru aux éditions Navarin. J-55, le compte à rebours a commencé avant la première épreuve du bac, l'épreuve tant redoutée de philosophie. Comment affronter cette épreuve en étant prêt et serein? C'est la question que se posent tous les élèves de terminale, toutes sections confondues. Alors pour la sérénité, il n'y a pas grand-chose à faire, à part apprendre à respirer calmement pour ne pas perdre ses moyens. Mais pour être prêt ou se sentir prêt, là, en revanche, la solution existe. Et c'est pour vous y aider que les Nouveaux Chemins vous proposent toute cette semaine de dialoguer avec des professeurs de philosophie en lycée, en compagnie de leurs élèves, afin de retracer pour vous les différentes étapes à suivre au cours des 4 heures d'épreuve, de manière à pouvoir traiter tous les sujets qui sont susceptibles de tomber le jour du bac. Et pour être le plus proche possible des conditions de préparation, ce n'est pas en studio, mais dans les lycées que nous avons enregistré ces émissions, à Brest, au lycée de l'Arthe-Loire et au lycée Vauban. Toute cette semaine est organisée en partenariat avec Philosophie Magazine, dont le hors-série spécial Bac Philo est en vente, en ce moment même, chez tous les marchands de journaux. Après Patrice Point hier, qui a ouvert cette semaine avec un sujet politique, en se demandant si une communauté politique n'était qu'une communauté d'intérêts, c'est aujourd'hui le professeur Philippe Ouvrard, enseignant au lycée de l'Amiral Renard, que nous allons travailler sur le sujet suivant. Obéir, est-ce renoncer à sa liberté?
Moi, si j'ai 11 en philo, je peux pas avoir moins de 8 en histoire géo, sinon j'ai aucune chance. Par contre, si j'ai au moins 16 en anglais, là, je peux avoir 9 en philo. 9, ça va.
Alexia Palier, le jour de l'épreuve, vous êtes assis face à votre table, vous ouvrez les sujets, vous tombez face à ce sujet-là. Obéir, est-ce renoncer à sa liberté? Comment est-ce que vous réagissez?
Ben non, moi, je pense à mes parents. Parce que on obéit à ce que nos parents disent. Du coup, on ne sait pas si on est vraiment libre ou pas.
Clémentine Ponsin.
Je pense que je serais un peu désemparée face à ce sujet. Parce que pour moi, il n'est pas assez peut-être concret, enfin, pour mon ressenti, quoi. Dans un sujet de philo, je préférerais un thème plus en rapport avec la conscience ou la morale.
Alors c'est intéressant ça, Philippe Ouvrard, de voir ses réactions par rapport à un sujet donné. De voir qu'on peut avoir des sujets de prédilection et d'autres qui nous paraissent complètement abstraits. Ce n'est pas le danger de la dissertation de philo, qu'on en fasse un exercice abstrait qui n'ait aucun rapport avec notre vie quotidienne.
Oui, et justement, le premier travail à mener à bien, c'est d'essayer de lever cette impression d'abstraction et voir dans quelle mesure ce sujet correspond à des problèmes qu'on pose concrètement dans la vie, même si c'est avec une formulation différente, avec d'autres mots, etc. Il faut essayer de montrer qu'on a affaire à un problème réel qu'on peut rencontrer effectivement dans son existence, par exemple dans l'expérience de l'obéissance à ses parents, etc.
Et alors, en l'occurrence, pour vous, obéir, est-ce renoncer à sa liberté? Est-ce que c'est un sujet difficile ou non?
C'est un sujet assez classique et qui, néanmoins, suppose de maîtriser assez bien un certain nombre de connaissances dans l'histoire de la philosophie et par ailleurs de savoir bien problématiser le sujet au départ.
Alors justement, vous-même, en tant qu'élève, si vous vous mettez le temps des 50 prochaines minutes dans la position d'un élève qui serait le jour du bac face à ce sujet, comment est-ce que vous procédez? Est-ce que vous commencez par définir les termes obéir, liberté, ou bien est-ce que vous cherchez une problématique?
Oui, il y a les deux démarches en fait. C'est-à-dire qu'on a une question face à soi et la première impression que l'on a, c'est que c'est une question abstraite, on ne voit pas forcément son sens, etc. Et il faut parvenir à comprendre l'énoncé. Ce qui requiert un travail d'analyse des mots importants de l'énoncé. dans lequel il ne faut pas faire, il faut pas voir un, quelque chose de gratuit, parce qu'au bout du compte, c'est un effort de bon sens, essayer de comprendre la question qui nous est posée. Et lever les ambiguïtés, les malentendus, les doubles sens qu'il pourrait y avoir dans les mots de l'énoncé.
Alors, en l'occurrence, Alexia Palier disait, moi, quand je lis ce sujet-là, je pense à mes parents. Est-ce que c'est une bonne façon de commencer la réflexion, avant même de commencer la rédaction de l'introduction, de partir d'un cas particulier comme celui-là ? Est-ce que lorsque j'obéis à mes parents, est-ce que je suis moins libre que lorsque je leur désobéis ?
Tout à fait, oui. Un point d'ancrage dans la réalité, par exemple, dans l'expérience qu'on peut avoir en tant qu'élève, en tant qu'enfant par rapport à ses propres parents, c'est un bon enjeu possible. Il faut essayer de les multiplier, de ne pas s'enfermer dans un seul exemple, mais avoir une vision assez variée de la façon dont le problème se pose concrètement. La première impression qu'on pourrait avoir face à un tel sujet, c'est que la question ne se pose même pas, qu'effectivement, quelqu'un qui obéit renonce à sa liberté. Et donc il faut, dans un premier temps, essayer de lever cette impression d'évidence, voir comment une autre réponse pourrait être défendue d'un autre point de vue, de sorte que le problème apparaît. Un plan, ce serait trop tôt pour le faire émerger à ce moment-là, parce qu'il y a un travail, disons, une fois qu'on a choisi le sujet, ce qui prend à peu près 5-10 minutes maximum au début de l'épreuve, il y a tout un travail d'exploration de l'énoncé au brouillon, visant à faire apparaître son sens dans un premier temps, et visant dans un deuxième temps à le problématiser. Ensuite de quoi, il s'agit de chercher tous azimuts, différents arguments, différentes idées, différents thèmes, différents exemples, différents auteurs également, qu'on va ensuite s'efforcer d'organiser en un raisonnement qui permettra par la suite de faire un plan. Une première manière de dépasser l'impression immédiate, selon laquelle obéir, c'est forcément renoncer à sa liberté, c'est d'apercevoir que si on prend le cas d'un enfant, par exemple, qui désobéit systématiquement, ou le cas d'un employé qui fait sa mauvaise tête, ou je ne sais quoi, on a une forme de désobéissance, certes, mais qui semble relever du caprice, ne mener à rien, ne pas avoir grand sens, et on commence à douter qu'il y ait là une forme d'affirmation de sa liberté. Il faut essayer d'apercevoir la contradiction qui peut résider dans le sujet. Entre d'un côté le fait que désobéir tout le temps ne semble pas mener à grand-chose, et d'un autre côté que se soumettre semble tout sauf une liberté. Et donc on pourrait partir de la position la plus simple et en même temps la plus simpliste, selon laquelle oui, obéir c'est renoncer à sa liberté, et désobéir c'est affirmer sa liberté. Ensuite de quoi, dans une deuxième partie, on pourrait mettre en cause ce postulat selon lequel l'obéissance serait forcément une résignation, forcément un renoncement à sa liberté, et essayer de distinguer différents cas de désobéissance. Des désobéissances qui sont référées à simplement à un égoïsme ou à une envie de ne pas obéir, justement, et des désobéissances qui peuvent être légitimes parce qu'elles sont des obéissances à pouvoir injuste ou des choses comme ça. Il nous reste une difficulté à surmonter, c'est que s'il est vrai qu'il faille obéir, ça ne nous montre pas pour autant que l'obéissance soit une liberté. Et il va falloir essayer de concilier d'un côté obéissance et de l'autre côté liberté. Comment est-ce que je peux être libre dans l'obéissance tout en étant libre dans la désobéissance ?
Est-ce que dès lors que ce plan, une fois qu'il est tracé, qu'on peut même l'écrire sur le papier hein, pour qu'on voit la ligne à suivre, est-ce que déjà doivent venir à l'esprit des références, que ce soit des exemples concrets ou des auteurs qu'on a pu étudier pendant l'année et qui vont venir nous aider à construire cette réflexion-là ?
Je dirais plutôt, en termes de démarche, quand on travaille sur son brouillon, les choses plutôt en sens inverse, c'est-à-dire que pendant, disons, à peu près une heure et demie, voire presque deux heures, on travaille au brouillon sans rien rédiger. Et pendant ce temps-là, la première phase, c'est celle durant laquelle on a des idées qui sont un peu en vrac, qu'il faut ensuite classer. Et le plan intervient comme un principe de classement une fois qu'on a commencé à faire émerger des idées. Et donc je dirais plutôt l'apparition du plan autour du travail, autour d'une demi-heure, trois quarts d'heure de travail déjà, où on a commencé à percevoir des auteurs, à percevoir des thèmes, à percevoir des arguments éventuels, etc.
Alors, si je suis votre raisonnement, dans la première partie, vous essayerez de montrer que obéir, c'est renoncer à sa liberté. Oui. Et donc, désobéir, c'est une façon d'affirmer sa liberté. Et pour exprimer cette idée-là, il y a un texte notamment qui pourrait être très utile si les élèves l'ont en tête, et s'ils ne l'ont pas, ce sera l'occasion de leur faire découvrir. C'est un texte qui est tiré du dialogue de Platon intitulé Gorgias, dans lequel on entend Calliclès émettre un discours dans lequel il exprime justement cette position qu'on peut appeler libertaire. La liberté, c'est vouloir faire ce qu'on veut.
Comment en effet un homme serait-il heureux s'il est asservi à quoi que ce soit ? Mais je vais te dire avec toute liberté ce que c'est que le beau et le juste dans l'ordre de la nature. Pour mener une vie heureuse, il faut laisser prendre à ses passions tout l'accroissement possible et ne point les réprimer. Et lorsqu'elles sont ainsi parvenues à leur comble, il faut être en état de les satisfaire par son courage et son habileté et de remplir chaque désir à mesure qu'il naît. C'est ce que la plupart des hommes ne sauraient faire, à ce que je pense. Et de là vient qu'ils condamnent ceux qui en viennent à bout, cachant par honte leur propre impuissance. Ils disent donc que l'intempérance est une chose laide, comme je l'ai remarqué plus haut. Ils enchaînent ceux qui ont une meilleure nature. Et ne pouvant fournir à leur passion de quoi les contenter, ils font, par pure lâcheté, l'éloge de la tempérance et de la justice. Et, dans le vrai, pour ceux qui ont eu le bonheur de naître d'une famille de rois, ou que la nature a fait capable de devenir chef, tyran ou roi, y aurait-il rien de plus honteux et de plus dommageable que la tempérance ? Tandis qu'ils peuvent jouir de tous les biens de la vie sans que personne les en empêche, ils se donneraient eux-mêmes pour maître les lois, les discours et la censure du vulgaire. Comment cette beauté prétendue de la justice et de la tempérance ne les rendrait-elle pas malheureux, puisqu'elle leur ôterait la liberté de donner plus à leurs amis qu'à leurs ennemis, et cela, tout souverains qu'ils sont dans leur propre ville ? Telle est, Socrate, la vérité des choses que tu cherches, dis-tu. La volupté, l'intempérance, la licence, pourvu qu'elles aient des garanties, voilà la vertu et la félicité. Toutes ces autres belles idées, ces conventions contraires à la nature, ne sont que des extravagances humaines auxquelles il ne faut avoir nul égard.
Alors Philippe Ouvrard, ce texte est vraiment, vraiment intéressant parce qu'on a ici la pensée de quelqu'un qui pense que ceux qui font l'éloge de la tempérance et donc qui exprime la nécessité de devoir maîtriser ses désirs, de devoir contrôler ses passions, sont en fait des gens qui sont dans un discours de mauvaise foi puisqu'ils n'osent pas en réalité aller au bout de leurs passions. Donc c'est un éloge des passions et des désirs que l'on doit mener à terme et quiconque n'y arrive pas serait en fait quelqu'un qui manquerait de courage et d'habileté. Il retourne complètement la pensée que l'on a généralement en tête où il s'agit justement d'essayer d'avoir un minimum de contrôle sur ce désir.
Oui, tout à fait. Ici, Calliclès s'oppose à toute forme de conformisme moral ou toute forme de légalisme pour affirmer l'idée que c'est en ayant la force et le cran, on pourrait dire, de désobéir qu'on est véritablement heureux. Et il défend une forme de nihilisme moral, disons, qui montre que toute forme d'obéissance se résume à un esclavage et que la véritable liberté est au contraire d'adopter une attitude forte, se désintéressant de toute forme de contraintes, de règles, de normes, de valeurs, etc. Et donc on peut considérer que c'est les prémices d'une position libertaire, telle qu'on pourra la voir par la suite formulée chez Bakounine, par exemple, qui est le principal théoricien de l'anarchisme, ou chez Stirner, par exemple, au milieu du XIXe siècle. Mais là, on constate en même temps une difficulté de cette position-là, puisqu'il s'agit de faire prévaloir ses propres intérêts d'une façon éventuellement violente. Donc on pourrait, après l'exploration de cette première position, radicaliser cette thèse libertaire en la situant cette fois sur le plan politique, par exemple avec un texte de Bakounine ou un texte de Stirner, si par exemple on en a rencontré dans l'année, puisque certains manuels présentent des textes de Stirner, par exemple. Et il apparaît là encore que l'individu doit s'opposer à l'État, puisque l'État serait la forme la plus répressive des individus et des groupes, et toute forme de servitude étatique serait repoussée.
Mais alors là, donc, dans cette première partie, vous prenez deux formes de désobéissance possibles. La première à une échelle individuelle, dans le cas de Calliclès, qui dit qu'il faut, qu'on ne peut obéir qu'à ses propres passions, que toute forme d'obéissance à autre chose qu'à soi-même serait illégitime. Et dans un deuxième cas, vous envisagez une autorité qui, elle, serait d'ordre politique, comme celle de l'État. C'est le cas de la pensée anarchiste, notamment celle de Bakounine. Comment passe-t-on de l'une à l'autre? Comment justifie-t-on le passage d'un niveau de réflexion à un autre au service d'une même thèse?
Mais là, en l'occurrence... Le passage d'un niveau à l'autre se fait par l'affirmation d'indépendance de l'individu, aussi bien chez Platon, exposant la position de Calliclès, que chez Bakounine. Il s'agit de faire prévaloir l'indépendance sans frein de l'individu face à toutes les oppressions ou à toutes les règles, même de façon générale.
Regardez-les défiler, ils ne savent ce qu'ils font, et pourtant ils s'en vont. Ils s'en vont sans savoir où ils vont. Regardez-les défiler, ils n'ont pas su dire non à la voix du canon. Ils s'en vont pour le droit, pour la loi, on ne sait jamais pourquoi, et voilà, on remet ça. On leur a dit que c'était la dernière guerre. Ils sont partis sans un mot, mais ils n'y croyaient.
Vous écoutez France Culture, vous êtes sur les nouveaux chemins de la connaissance où nous préparons l'épreuve de bac philo toute cette semaine et aujourd'hui en compagnie du professeur Philippe Ouvrard, enseignant au lycée de l'Amiral Renard, nous traitons le sujet suivant: obéir, est-ce renoncer à sa liberté?
Regardez-les s'en aller, dans quelques jours ils auront des fusils, des canons. Ils tueront croix d'honneur, croix de bois, on ne sait jamais pourquoi, et voilà, on remet ça. La vie, l'amour, les chansons.
Philippe Ouvrard, lorsque Léo Ferré chante, comme dans cette chanson, Regardez-les, donc cette forme de marche militaire où il décrit des soldats qui s'en vont au combat, qui n'ont pas su résister à l'appel du canon, dit-il. C'est là un bon exemple de cette forme d'asservissement que peut ressentir l'individu face à une autorité supérieure qui le dépossède de sa propre liberté.
Oui, tout à fait. Là, on sent bien la représentation de toute forme d'autorité ou d'injonction ou de règles comme un asservissement, comme une disparition de la spontanéité de l'individu ou de la vie en société, etc. De sorte qu'il faudrait, face à cela, envoyer par-dessus l'épaule, disons, toute forme de contrainte, toute forme d'obligation, et ce qui pose problème davantage, toute forme de norme, toute forme de reconnaissance de certaines valeurs.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que dans le cas précis, si on garde l'exemple des militaires qui sont appelés par leur pays à prendre les armes et à aller se battre, peut-être que leur revendication est légitime, que désobéir à un pouvoir, dans certains cas, est légitime, et même est l'occasion de faire entendre une position, une valeur, une norme qui va contre l'autorité, mais qui en tant que telle est également recevable.
Oui, tout à fait. Disons là, l'objection qui pourrait apparaître, c'est que l'individualité qui est la mienne ou les mœurs dans lesquelles je suis plongé peuvent, dans certains cas, être revendiquées légitimement face à un pouvoir qui serait arbitraire, dominateur ou despotique, mais pas nécessairement. S'il s'agit pour, par exemple, un joueur dans un match de football de manifester son propre caprice ou sa propre indépendance face aux règles du jeu, le non-respect des règles du jeu n'est pas forcément légitime.
Alors là, justement, c'est peut-être l'occasion de faire une distinction entre deux termes qu'on a employés là jusqu'à présent, qui est la distinction entre une désobéissance qui serait d'ordre légal et l'autre d'ordre légitime. Et cette différence entre le légal et le légitime est une bonne manière déjà pour l'élève de montrer que ces distinctions sont maîtrisées par lui. Donc il y a un travail de précision des termes. Et ensuite, parce que ce n'est pas uniquement une façon de montrer que l'on sait des choses, ça permet d'aller plus loin dans la réflexion. Puisque si on distingue ces deux plans-là, on distingue aussi deux formes de désobéissance. Et ça permet d'affiner la réflexion quant au rapport entre la désobéissance et la liberté.
Oui, là, on a effectivement une distinction qui fait partie du programme, la distinction entre ce qui est légal et ce qui est légitime, une distinction que les élèves doivent avoir acquise, normalement. Mais il ne s'agit pas de la restituer telle quelle, mécaniquement, comme un savoir que l'on chercherait à manifester, mais il s'agit de la transformer en instrument de pensée, d'en faire un instrument pour sa propre réflexion, de la mobiliser pour les besoins de son raisonnement.
En l'occurrence, par exemple, on pourrait prendre le cas d'Antigone. Oui. Antigone, que souvent les élèves ont étudié au lycée, que ce soit en première ou en terminale, on a justement ce personnage d'Antigone qui désobéit au pouvoir, qui lui interdit d'enterrer son frère. Elle l'enterre et en disant « mais ce faisant, je désobéis à la loi de la cité, mais non pas à la loi des dieux ». Et on a là la distinction entre deux formes de légalité qui en fait recoupe celle entre ce qui est légal et ce qui est légitime.
Oui, elle fait remarquer que la loi du roi Créon est une loi qui ne vient pas de Zeus, mais est une loi qui est posée par un homme, et donc une simple légalité. Et elle oppose à cette loi de Créon, qu'on appellerait en langage contemporain une loi positive, elle oppose à cela une loi dont elle dit qu'elle est légitime, qu'elle est divine, éternelle, non écrite, qu'elle vient des dieux, et qui consiste à remplir ses devoirs envers son frère Polynice, qui est défunt, et l'enterrer ainsi. Et donc, effectivement, la référence à Antigone nous permet de distinguer deux niveaux par rapport auxquels l'obéissance peut se positionner. On peut obéir à une loi non écrite tout en désobéissant à une loi écrite, c'est-à-dire légale. L'exemple qu'on prend classiquement, c'est De Gaulle s'opposant à la légalité du régime de Vichy, qui se réclame d'une loi, d'une exigence de justice plus élevée, à savoir soit la nation, soit la démocratie, de façon à contester l'ordre existant.
Alors vous faites référence à De Gaulle, c'est l'occasion de rappeler, ou plutôt pour moi c'est l'occasion de vous poser la question, de savoir est-ce que toutes les références sont autorisées au sein d'une dissertation, des références que ce soit à l'actualité ou des références classiques, littéraires, est-ce qu'on peut mobiliser toute forme de référence à partir du moment où c'est au service d'une pensée, de l'étayement d'une thèse?
Oui, à partir du moment où c'est au service du déploiement d'une réflexion véritablement philosophique. Si on avait un élève, par exemple, qui prenait tirer argument de l'actualité, par exemple, pour défendre une position idéologique ou une opinion politique liée aux futures élections, par exemple, ce ne serait pas recevable, puisque ça ne correspond pas à un travail philosophique.
Alors justement, pour essayer d'ancrer ce point-là dans un cas particulier, et peut-être faire la transition avec la deuxième partie, je vous propose d'écouter tout de suite un extrait qui donne à entendre ce qu'on appelle les anonymous, que les élèves doivent connaître, puisqu'on en a beaucoup parlé cette année, qui sont notamment manifestés récemment à la suite de la fermeture de Mega Upload. Et vous allez voir, il tient un discours très intéressant quant à la liberté d'expression. Écoutez.
Citoyens du monde libre, ceci est un message d'Anonymous. La chute de Mega Upload a entraîné avec elle la chute de dizaines d'autres d'hébergeurs qui, par peur ou sous pression, ont cessé leur activité. Les autorités veulent nous faire croire qu'ils défendent l'intérêt des artistes et des majors alors que leur seule préoccupation est d'ajouter quelques millions à ceux qu'ils possèdent déjà. Les événements de ces derniers jours offrent une perspective sombre pour l'avenir du web. Ne les laissons pas prendre le contrôle d'Internet. SOPA, PIPA, Mega Upload, tout cela n'est qu'un début. La culture est le bien de tous. La culture est libre. La culture ne comprend aucune frontière, que celle-ci soit physique ou économique, et il en va de même pour la liberté d'expression. Ils nous prennent déjà tout, ne les laissons pas nous prendre ça. À l'intention de ceux voulant agir, il ne faut en aucun cas s'en prendre aux journaux en ligne. Ce genre d'acte décrédibilise totalement notre action. Anonymous défend la liberté d'expression et ceci devrait être maintenant entendu et compris. Facebook pas plus que Twitter ne doivent être touchés. Si les réseaux sociaux sont notre plus grande force, ils sont aussi leur plus grande faiblesse. Exprimez-vous. Pensez par vous-même. Créez. Partagez. Diffusez librement et surtout ne vous taisez jamais. Lorsque nous sommes ensemble, ils ne sont rien. Le savoir est libre. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas.
Philippe Ouvrard, ces Anonymous, collectif créé en 2003, je crois dans les années 2003-2004, leur position est assez claire, en tout cas telle que l'on vient de l'entendre. Ils se présentent comme des défenseurs du droit à la liberté d'expression sur Internet et en dehors. Et on a là, ce n'est pas le cas d'une désobéissance qui viendrait, qui brandirait la liberté juste comme un concept, mais c'est même aller plus loin, c'est de montrer que pour ne pas, pour dépasser les entraves qui sont les nôtres, il faut non seulement désobéir, mais désobéir au nom de la liberté. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que là, la désobéissance est justifiée au nom de la liberté. Donc là, ça renverse le sujet que vous aviez proposé.
Oui, tout à fait. Là, on a une revendication qui prend la liberté comme une norme, c'est-à-dire comme, par exemple, un droit fondamental, etc. Et il ne s'agit pas, dans ce cas-là, simplement pour un individu de s'opposer à un ordre existant, pour le simple plaisir d'affirmer sa singularité, mais il s'agit de revendiquer une liberté par le fait que on constate une négation de ses droits.
Voilà, mais en l'occurrence, cette liberté qui est revendiquée s'inscrit contre la légalité, puisque des sites tels que Megaupload étaient des sites illégaux. Donc on a là vraiment ce conflit entre l'idée de la liberté et la liberté telle qu'elle est définie, encadrée par la loi.
Oui.
Alors est-ce qu'à partir de là, donc déjà, est-ce que ce serait un exemple recevable au sein d'une copie?
Oui.
Voilà, donc on peut très bien citer un exemple de l'actualité, y compris aussi proche que celle-ci.
À condition d'en faire quelque chose, parce que ce qu'il faut que les élèves comprennent bien, c'est qu'un exemple à soi seul n'est pas une preuve, n'est pas un raisonnement. Il faut encore, par la suite, l'exploiter, en faire quelque chose dans son raisonnement. Et il faut qu'il ait été auparavant préparé.
Alors, l'heure tourne, élève Philippe Ouvrard. Il est temps de passer à la deuxième partie. Comment effectuez-vous la transition entre cette première partie, où vous avez affirmé les pensées d'ordre libertaire, vers un deuxième temps, où là, vous aviez dit vouloir montrer que la liberté ne consistait pas seulement à faire ce que l'on veut, mais qu'il faut faire aussi ce que l'on doit faire. On a ici la réintroduction de l'idée d'une norme.
Oui, alors justement, on pourrait, pour faire valoir l'idée d'une norme, qu'il s'agit d'obéir à quelque chose qui doit être, et pas uniquement d'obéir à un ordre établi. Encore faut-il que l'ordre auquel on obéit soit véritablement légitime. Et là, dans cette deuxième partie, on pourrait tester l'hypothèse suivante. La liberté ne consiste pas à faire ce qu'on veut, mais à faire ce qu'on doit. Et là, j'en profite pour signer au passage que les titres des parties que l'on met au brouillon ne sont pas à prendre comme des thèses qui seraient juxtaposées les unes aux autres, mais ce sont des hypothèses à tester successivement. Comme si on essayait une première voie pour résoudre un problème, on s'aperçoit que cette première direction est incomplètement satisfaisante, et on revient au problème pour repartir dans une autre direction, comme lorsqu'on rencontre un problème dans la vie courante, quand on répare, par exemple, sa machine à laver, on essaye une hypothèse, ça ne marche pas, on essaie autre chose. On essaye une hypothèse qui, on l'espère, sera meilleure que la précédente. Et c'est un peu sur ce mode-là qu'il faut penser le cheminement d'une démonstration dans une dissertation, de progresser d'étape en étape vers une résolution de plus en plus juste et de plus en plus fondée du problème.
Mais donc ce qui implique d'avoir montré à l'avance pourquoi il fallait renoncer à la première thèse défendue précédemment.
Oui, tout à fait.
Donc en l'occurrence, comment montrez-vous la nécessité d'adopter un autre point de vue, de tester une autre hypothèse ?
On a montré tout à l'heure que toute obéissance n'est pas forcément aberrante. Il y a des obéissances qui sont légitimes à partir du moment où on pose la distinction entre légal et légitime. Et donc, il ne faut pas mettre tout dans le même sac. Il faut distinguer entre différentes formes de désobéissance et différentes formes d'obéissance en fonction de ce critère du légitime. Et donc, on pourrait, dans une première sous-partie, prendre par exemple l'examen de la position stoïcienne qui montre que il s'agit d'obéir à ce qui doit être. Alors là, différents textes sont mobilisables en fonction des connaissances que l'on a. Quand on a une dissertation, le jeu de baccalauréat, on fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire que l'on prend les références que l'on maîtrise le mieux, même si d'autres seraient peut-être plus appropriées, ben tant pis, on prend ce qui convient quand même, mais qu'on possède le mieux. Et là, par exemple, on pourrait prendre un texte de Cicéron qui, dans Des Republica, montre que le légitime, c'est une loi vraie, la droite raison, conforme à la nature, et qui est en même temps la loi de la raison. De sorte que quelqu'un qui n'obéirait pas à cette loi s'ignore lui-même, dit Cicéron, parce qu'il aura méconnu la nature humaine. Et donc, on a une liberté qui est construite comme une liberté intérieure, puisqu'elle est construite par la délibération irrationnelle, par la conception, la mise en vigueur de la loi. Alors, au terme de cette première sous-partie, on pourrait essayer de passer de ce plan-là au plan politique qu'on avait laissé de côté tout à l'heure. Donc il faut faire apparaître une objection, c'est que la position stoïcienne se heurte à une difficulté, c'est qu'on obéit moralement à l'ordre des choses, à l'ordre de la nature, inscrite en nous aussi, mais ça conduit aussi à l'obéissance politique à l'État. De sorte qu'il peut y avoir des situations où on est face à des soumissions ou des dominations politiques qu'il est difficile dans ce cas-là de contester sur un mode de désobéissance civique, par exemple.
Et qu'est-ce que vous prendriez là comme cas particulier justement pour illustrer cette position-là ?
Un exemple qui montrerait que tous les régimes politiques ne sont pas forcément légitimes. Qu'il est des cas où on a des régimes politiques qui sont despotiques, on peut en prendre... on peut prendre un exemple dans l'actualité ou dans l'histoire, où effectivement on a un ordre, mais qui se paye au prix d'une injustice. Alors pour éviter cet écueil-là, il va nous falloir envisager une autre direction de travail, donc une deuxième sous-partie dans notre grand 2, qui pourrait être la position de Hobbes, puisque Hobbes s'efforce de discriminer d'un côté la représentation politique, le fait d'obéir à un État auquel on a donné son consentement, et d'un autre côté, une domination politique qui serait imposée par la force, par exemple. Et là, la référence celle qui s'impose le plus serait celle du texte sur le pacte social de Hobbes, dans le Léviathan, où il montre qu'au fond, les individus, pour lutter contre le risque de guerre, de tous contre tous, et pour la menace contre la paix commune, les individus ont intérêt à passer ensemble un pacte commun où chacun renonce à se faire justice lui-même et donne, pour ainsi dire, procuration à l'État pour qu'il assure la sécurité, la paix et le bonheur public.
Alors, en exposant cela, Philippe Ouvrard, vous pointez un autre problème qui sera sans doute celui à partir duquel vous allez repartir pour amener la troisième partie, qui est quand même du renoncement à la liberté, puisque, y compris dans le cas de Hobbes, même si c'est le propre des théories du contrat, hein, on accepte de se déposséder de notre liberté au nom d'une, ce que Rousseau appelle une volonté générale, d'une entité générale qui vient en retour veiller sur nos propres intérêts, il y a quand même dépossession d'une liberté à un moment donné, renoncement à une liberté, même si c'est au nom d'un intérêt supérieur ou d'une valeur supérieure. Alors, c'est la question que le sujet pose également. On en revient, hein, obéir, est-ce renoncer à ses libertés ? Est-ce que quand même, l'obéissance, y compris politique et y compris quand elle est dans notre intérêt, ne revient pas à renoncer à une forme de liberté ? Auquel cas, on serait conduit à dire que oui, nous devons renoncer à notre liberté puisque cela est pour notre bien.
Oui, c'est l'objection qu'on peut faire à Hobbes, qui défend une position absolutiste. Le surgissement de l'État, la formation d'un État républicain est certes un acte de liberté, mais qui aboutit à un renoncement à sa liberté au bout du compte. C'est-à-dire que l'inauguration de l'État est libre, mais la soumission à l'État est une perte de liberté. Donc on renonce à sa liberté dans la soumission à l'État.
Alors je vous repose la question, reprenant l'intitulé du sujet pour arriver à la troisième partie. Peut-on obéir sans renoncer à sa liberté, tout simplement ?
Oui, tout à fait. Là, il s'agit d'essayer de comprendre comment on peut obéir librement, tout en ne renonçant pas à sa liberté. Comment obéir librement, tout en conservant la liberté de désobéir ?
Enfin, au fondement du contrat, des pensées contractualistes, il y a quand même une liberté. Les hommes le font ça en toute liberté, ils ne sont pas contraints de le faire, justement.
On est d'accord, oui. Mais en tout cas, avec Hobbes, on perd la liberté de désobéir à l'État. Et la difficulté, c'est de concevoir une conciliation entre l'obéissance et la liberté qui n'aboutisse pas à une perte de la liberté de désobéir. Et donc, je ferai pour ma part le travail en deux temps, dans cette troisième partie, presque même trois temps, puisqu'il faut dans un premier temps redéfinir la liberté, mais ensuite deux temps, un temps sur la liberté politique, pour retravailler ce qu'on vient de faire apparaître avec Hobbes, et un temps sur la liberté morale, puisque c'est un aspect qu'on a rencontré au cours du raisonnement auparavant. Et donc, dans une première sous-partie, ce que je mobiliserai comme référence, c'est une définition générale de la liberté comme autonomie, et non plus comme indépendance, telle qu'on la trouve dans le contrat social de Rousseau, au livre 1, chapitre 8, où, avec une seule phrase, il précise un élément de réponse à notre problème, L'impulsion du seul appétit est esclavage, et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté, ce qui signifie que la liberté est obéissance, mais elle est obéissance si c'est une loi à laquelle on s'est prescrite.
Alors ça, c'est une idée qui est extrêmement importante et qui, en effet, sur laquelle il faut insister dans cette troisième partie, puisque c'est l'idée selon laquelle on peut être libre tout en obéissant, dès lors que ce à quoi on obéit est une loi qu'on s'est fixée soi-même. C'est la définition de l'autonomie. Hein. L'autonomie, c'est ce nomos, la loi, auto, se donner à soi-même sa propre loi. Et là, avec cette troisième partie, on a un troisième point de vue qui permet d'envisager les choses sous un nouveau jour où liberté et obéissance ne s'opposent plus.
Oui, tout à fait. Et seulement, il y a un malentendu à éviter, parce qu'on pourrait croire que lorsque Rousseau dit l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté, qu'il faille simplement se donner une obligation et puis la suivre. Mais on ne comprendrait pas dans ce cas-là une chose, c'est que quelqu'un qui, par exemple, est délinquant ou mafieux, peut se donner des obligations à lui-même, et ce n'est pas pour autant une forme de liberté. Et donc, il faut obéir à une loi qu'on s'est prescrite, à condition que cette norme, cette loi soit une norme qui soit humainement acceptable par tous.
Voilà, et là, donc, on en vient plutôt à un auteur tel que Kant, hein, qui, lui, essaye de définir, justement, les lois selon lesquelles les lois que nous pouvons suivre pour dicter notre agir, de manière à ce que ce soit compatible avec l'ensemble de la communauté dans laquelle on s'inscrit. Donc là, ce qui montre bien que la réflexion ne porte pas uniquement sur un plan individuel, ni même politique au sens abstrait, mais sur un plan proprement moral.
Oui, mais on voit que c'est la direction dans laquelle on va s'orienter. Mais une des stratégies qu'on peut avoir lorsqu'on rédige une dissertation, c'est de différer le moment où on va sortir la solution définitive de notre problème. Et une des façons de retarder le moment où on met en place la clé de voûte de la position qu'on défendra, c'est d'intercaler un moment intermédiaire. Par exemple, dans une deuxième sous-partie, on pourrait travailler la liberté politique, avec la façon dont Rousseau distingue indépendance et autonomie dans un texte qui est souvent travaillé avec les élèves, la huitième lettre écrite de la montagne.
Alors c'est un texte qui est très très beau, dans lequel effectivement il distingue l'indépendance et la liberté. Je vous propose de l'écouter tout de suite, ça vaut le coup de l'entendre.
On a beau vouloir confondre l'indépendance et la liberté, ces deux choses sont si différentes que même elles s'excluent mutuellement. Quand chacun fait ce qui lui plaît, on fait souvent ce qui déplaît à d'autres, et cela ne s'appelle pas un état libre. La liberté consiste moins à faire sa volonté qu'à n'être pas soumis à celle d'autrui. Elle consiste encore à ne pas soumettre la volonté d'autrui à la nôtre. Quiconque est maître ne peut être libre, et régner, c'est obéir. Vos magistrats savent cela mieux que personne, eux qui, comme Othon, ne mettent rien de servile pour commander. Je ne connais de volonté vraiment libre que celle à laquelle nul n'a droit d'opposer de la résistance. Dans la liberté commune, nul n'a droit de faire ce que la liberté d'un autre lui interdit, et la vraie liberté n'est jamais destructive d'elle-même. Ainsi, la liberté sans la justice est une véritable contradiction, car comme qu'on s'y prenne, tout gêne dans l'exécution d'une volonté désordonnée. Il n'y a donc point de liberté sans loi, ni où quelqu'un est au-dessus des lois. Dans l'état même de nature, l'homme n'est libre qu'à la faveur de la loi naturelle qui commande à tous. Un peuple libre obéit, mais il ne sert pas. Il a des chefs et non pas des maîtres. Il obéit aux lois, mais il n'obéit qu'aux lois. Et c'est par la force des lois qu'il n'obéit pas aux hommes. Toutes les barrières qu'on donne dans les républiques au pouvoir des magistrats ne sont établies que pour garantir de leurs atteintes l'enceinte sacrée des lois. Ils en sont les ministres, non les arbitres. Ils doivent les garder, non les enfreindre. Un peuple est libre, quelque forme qu'ait son gouvernement, quand dans celui qui le gouverne, il ne voit point l'homme, mais l'organe de la loi. En un mot, la liberté suit toujours le sort des lois. Elle règne ou périt avec elle, je ne sache rien de plus certain. Vous avez des lois bonnes et sages, soit en elles-mêmes, soit par cela seul que ce sont des lois. Toute condition imposée à chacun par tous ne peut être onéreuse à personne. Et la pire des lois vaut encore mieux que le meilleur maître, car tout maître a des préférences, et la loi n'en a jamais.
Le texte continue, hein, Philippe Ouvrard, mais cette distinction entre indépendance et liberté notamment, est très importante, notamment dans l'expression hein, « la liberté consiste moins à faire sa volonté qu'à n'être pas soumis à celle d'autrui ». On a là toute la distinction, vraiment une finesse d'analyse dans ce que c'est que l'indépendance et la désobéissance. Faire sa volonté n'est pas la même chose que n'être pas soumis à celle d'autrui. Le fait qu'on fasse intervenir une volonté extérieure à la nôtre en la personne d'autrui permet justement de hisser la réflexion à un niveau certes politique, mais également moral, d'en savoir au nom de quelle loi on choisit d'agir.
Oui, parce qu'on a introduit un élément supplémentaire qui est non pas ma seule liberté, mais la liberté d'autrui. Et donc, il s'agit pour Rousseau de comprendre comment la liberté est en réalité la conciliation entre ma liberté et ta liberté, ou ma liberté et la liberté de n'importe qui d'autre. Dès lors que je comprends que certaines règles sont nécessaires pour faire coexister ma liberté et la liberté de n'importe qui d'autre, je me soumets à une règle que n'importe qui peut comprendre comme légitime, qui ne supprime pas ma liberté. Et une des choses qui est intéressante à apercevoir dans ce texte-là, c'est que c'est la raison pour laquelle Rousseau justifie d'obéir aux lois. Ordinairement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut obéir aux lois pour qu'il y ait de l'ordre, pour qu'on puisse vivre en société, etc. Là, ce qu'il dit, c'est que il faut obéir aux lois pour être davantage libre. C'est-à-dire que les lois, au lieu de diminuer notre liberté, augmentent notre liberté. Mais à condition que ces lois soient des lois non pas despotiques, mais des lois justes, comme il le dit dans la suite du texte.
Et il distingue justement ce quiconque est maître ne peut être libre et régner, c'est obéir. Et ce point-là est très important puisqu'il montre qu'en réalité, régner, donc être celui qui fait appliquer les lois, n'est pas le gage d'une liberté. Qu'au contraire, lorsqu'on règne, on est dépendant de ce sur quoi on règne. Et donc là, ça permet encore une fois d'affiner la réflexion sur la liberté et l'obéissance.
Oui, mais là, la dépendance de celui qui règne n'est pas une dépendance qui serait un asservissement à un ordre qui lui serait donné. C'est l'obéissance à une règle de vie en commun. Encore faut-il que nous ayons à obéir à des lois justes, parce que dans le cas où nous sommes dans une situation de despotisme, effectivement, on ne pourrait pas dire qu'il n'y a pas de liberté sans loi, comme le dit Rousseau.
Alors justement, vous disiez que vouloir garder le meilleur pour la fin, si j'ose dire. La question qui se pose, c'est de savoir au nom de quoi, enfin comment une règle peut-elle être juste, au nom de quoi est-ce que je peux choisir une règle comme étant juste ou légitime et qui me permettra d'agir de manière non seulement juste vis-à-vis de moi-même, mais vis-à-vis des autres, et donc tout en restant libre. Quelle loi est-ce que je peux suivre qui ne vienne pas entraver ma liberté, au contraire vienne l'accroître sans faire obstacle à autrui?
Oui, là, on pourrait, dans une troisième partie, aborder les choses sous un angle kantien.
Il reste quelques minutes pour le faire.
D'accord,
alors,
on va tâcher de le tenir.
Pour la perspective kantienne.
Il s'agit d'approfondir, en fait, pour nous, la notion d'autonomie en introduisant le couple hétéronomie de la volonté, autonomie de la volonté, que Kant thématise. Et il s'agit de comprendre que l'autonomie est l'obéissance à un principe moral que je me donne moi-même. Non pas que le principe moral me serait donné à l'avance, mais au sens où c'est moi-même qui peut être la source de la loi morale. Et donc l'autonomie apparaît comme une auto-législation, où il s'agit d'agir selon des normes ou selon des principes d'action, tels qu'ils puissent être reconnus comme légitimes par n'importe qui, de sorte que l'obéissance n'est pas la soumission à une loi imposée ou à une tradition ou à une norme reçue d'extérieur.
Sauf que dans le cas de Kant, justement, la loi n'est pas à proprement dite, elle est choisie, mais l'autonomie de la volonté, selon Kant, permet de penser le rapport que nous pouvons avoir à la loi dans un espace public. Comment faire le lien entre les deux?
Bon, d'abord, il y a le fait que la norme à laquelle je dois me soumettre n'est pas une norme qui me serait imposée. C'est-à-dire qu'il m'appartient à chaque fois de voir si les principes d'action auxquels on me demande de me soumettre sont légitimes. Mais cette norme doit pouvoir être reconnue comme valable par n'importe qui. Enfin, l'important, c'est que ce soit les gens qui soient les auteurs des normes auxquelles ils obéissent. Ce qu'on peut retrouver, par exemple, dans des revendications comme les Anonymous ou dans des revendications comme celle du printemps arabe, par exemple. Par exemple, quand on voit la révolte ou la révolution tunisienne, on voit qu'il y a une affirmation par un peuple d'une revendication où on entend être l'auteur de son avenir. Alors, la question est de savoir si cette revendication est légitime. Elle n'est légitime que si elle se fait au nom de revendications qui sont universalisables. Et donc, si on aboutissait à à une reprise en main par un despotisme quelconque à l'issue de ces révoltes-là, l'obéissance à laquelle on demanderait de se soumettre ne serait pas légitime.
On en revient donc à l'importance de la légitimité. Voilà. Alors comment est-ce que, quelle conclusion est-ce que vous proposeriez à l'issue de ce développement ?
Revendiquer les droits de la désobéissance et en même temps revendiquer l'obligation d'obéir, mais à condition que dans les deux cas, on ait affaire à quelque chose de légitime. Désobéir, oui, si on est par exemple dissident soviétique ou si on s'oppose à un despotisme quelconque, de façon à faire valoir des droits universels ou universalisables, et obéir à condition qu'on ait un pouvoir qui soit ouvert à la reconnaissance des droits des uns et des autres.
Alexia Pallier, donc vous avez assisté à l'élaboration et la rédaction orale de cette dissertation. Est-ce que le sujet vous paraît plus clair ? Est-ce que vous pourriez vous-même proposer un plan qui serait peut-être différent de celui de votre professeur et qui pourtant vous paraîtrait complètement légitime ?
Ben, moi, je trouve bien le plan de M. Ouvrard. Mais c'est surtout que ça m'éclaire en fait, sur les auteurs, surtout, à utiliser. Parce que c'est vrai qu'en philo, en philosophie, il y en a plutôt pas mal. Et chaque auteur en fait, défend plusieurs idées, plusieurs thèmes, dont la morale, la liberté, la politique et beaucoup d'autres. Et c'est surtout que des fois, on peut confondre. Et du coup, ça m'a permis d'en retenir certains.
Mais ça, Philippe Ouvrard, c'est une vraie question, celle de savoir est-ce qu'il y a des auteurs incontournables selon le sujet ? Est-ce que nous devons, en tant qu'élèves, le jour du bac, de parler de certains auteurs ? Si on a un sujet sur la politique, est-ce que nous devons parler de Rousseau, par exemple ? Ou est-ce qu'on a quand même une liberté dans le choix des références, qu'elles soient d'ailleurs philosophiques ou non, du moment qu'elles sont au service de l'explication du sujet ?
Il n'y a pas véritablement de passage obligé. L'important, c'est que le candidat puisse faire le tour des différentes positions philosophiquement défendables sur la question. Mais on peut tout à fait avoir un traitement atypique du sujet qui fasse intervenir d'autres auteurs auxquels d'autres ne songeraient pas.
Clémentine Poncin, quant à vous, est-ce que vous avez eu des références ou des noms d'auteurs auxquels vous avez pensé là, au cours de l'élaboration de la dissertation et que Philippe Ouvrard n'aurait pas évoqué ?
Oui, j'aurais peut-être cité Sartre. Nous avons vu un certain nombre d'auteurs qui défendent différents points de vue à propos des libertés, que ce soit les contractualistes ou libertés individuelles, tout ça.
Et est-ce que par rapport à la façon dont vous auriez mené la dissertation, est-ce que ça aurait été un peu différent de ce que du plan proposé par le professeur ?
Oui, certainement. Je pense qu'il faut amener ce sujet vers différents plans, plan politique par exemple, très important, et donc voilà, plan social, etc.
Mais est-ce qu'il vous paraît plus concret, justement, que qu'au début de l'émission, vous disiez que ça vous paraissait assez abstrait ?
Oui, parce que la distinction des concepts a été faite, c'est-à-dire autonomie, indépendance, liberté, quoi.
Alors, une question de Cassandre Corchia, dans la salle.
Est-ce qu'à la fin de la première partie, donc pour réfuter l'idée que obéir, c'est la liberté, on pourrait dire que faire tout ce qui nous plaît, finalement, c'est obéir à ses désirs et donc être asservi à soi-même.
Oui, tout à fait. Oui. C'est une position qu'on peut argumenter à partir des stoïciens, précisément. Enfin, beaucoup d'auteurs antiques montrent justement que, comme nous le dira par la suite Rousseau, que l'obéissance au seul appétit est esclavage.
Merci beaucoup Philippe Ouvrard de nous avoir donné tous les conseils et les recommandations nécessaires pour traiter le sujet que je rappelle, obéir, est-ce renoncer à sa liberté. Je rappelle également que vous êtes enseignant au lycée de l'Amiral Renard et que cette émission a été enregistrée au sein du lycée de l'Arthe-Loire en compagnie de vos élèves. Je renvoie tous les auditeurs, élèves ou pas, au site internet d'ailleurs des Nouveaux Chemins, où vous trouverez en ligne le plan détaillé de la dissertation du jour, les références bibliographiques précises et tous les outils indispensables pour préparer l'épreuve de philo le jour du bac. Je rappelle enfin que ces émissions spéciales Bac Philo sont organisées en partenariat avec Philosophie Magazine, dont le hors-série spécial Bac est en vente en ce moment en kiosque et en librairie. Il est 10h50, vous écoutez France Culture, vous êtes sur les nouveaux chemins de la connaissance et c'est l'heure de retrouver, comme tous les jours, le journal de la philosophie avec vous, François Nodelman. Bonjour.
Bonjour Adèle. L'histoire des idées oppose souvent les penseurs, les courants, mais la réalité des échanges intellectuels est beaucoup plus nuancée. Ainsi de la relation entre Lacan et Sartre, qui ne se réduit pas à l'opposition entre structuralisme et existentialisme, mais procède d'un dialogue plus souterrain. C'est ce que nous montre notamment Clotilde Le Guil dans son livre « Sartre avec Lacan, corrélation antinomique, liaison dangereuse » avec une préface de Jacques-Alain Miller aux éditions Navarin. Clotilde Le Guil, bonjour.
Bonjour.
Bon, Sartre avec Lacan, on aurait plutôt attendu Lacan contre Sartre.
Oui, en effet. On aurait plutôt attendu Lacan contre Sartre. En même temps, Sartre avec Lacan, il faut bien entendre en quel sens, quel sens a ce oui. avec. Hein. Il s'agit de la façon dont Lacan s'est servi de Sartre, hein, non pas de la façon dont il aurait cheminé à ses côtés, mais de la façon dont Lacan s'est servi de Sartre au sein de sa propre élaboration psychanalytique et structuraliste, pour en même temps avancer par rapport aux difficultés rencontrées par Freud lui-même dans la psychanalyse.
On est très surpris, et c'est tout à fait intéressant justement de sortir de ces oppositions très convenues, et c'est vraiment une découverte, c'est très riche. Est-ce que vous pourriez donner quelques éléments de ce dialogue implicite entre Lacan et Sartre?
Oui, moi aussi, en fait, j'étais tout à fait surprise. Au départ, donc, je suis philosophe de formation et donc j'ai commencé à me former à la psychanalyse et à l'enseignement de Lacan à travers une analyse, à travers le cours de Jacques-Alain Miller. Et moi-même, j'ai été extrêmement surprise, ayant travaillé sur Sartre, ayant même essayé de faire une thèse sur Sartre, de voir à quel point Sartre avait compté pour Lacan sans que Lacan, finalement, lui-même l'avoue clairement.
Il le cite très très peu.
Il le cite peu et en général, enfin, quand il le cite, c'est essentiellement pour le critiquer, pour le tenir à distance.
Oui, le tenir à distance. D'ailleurs, quelquefois, il cite Merleau-Ponty dans l'analyse du regard, là où on attendrait plutôt Sartre.
Alors, il cite Sartre aussi, mais c'est vrai qu'il a beaucoup plus d'indulgence, beaucoup plus d'amitié, disons, officielle, comme ça, pour Merleau-Ponty que pour Sartre. Alors, quelques points de rencontre. Tout d'abord, il y a un premier point de rencontre qui est étonnant, 1946, lorsque Lacan énonce donc ses propos sur la causalité psychique. Donc, il s'agit d'une intervention de Lacan au sein d'un congrès de psychiatrie où Lacan essaye de défendre l'idée de causalité psychique de la folie contre une autre théorie de la causalité qui est la théorie de la causalité organodynamiste de Henriette. Donc, lui défend la causalité psychique, donc avec Freud évidemment, la causalité inconsciente. Mais finalement, la façon dont il explique en dernier ressort la causalité de la folie, c'est en invoquant un choix, une insondable décision de l'être. Donc là, on n'est plus dans une logique purement déterministe, quand bien même il s'agirait d'un déterminisme inconscient, mais on est dans une logique de choix du sujet. Alors bien sûr, il s'agit d'un choix inconscient pour Lacan, mais en même temps, il y a une reprise tout à fait étonnante de ce que Lacan appelait, enfin, de ce que Sartre appelait le choix contingent et injustifiable de l'être dans sa psychanalyse existentielle.
Donc on voit que Lacan réinvestit ses concepts de la philosophie existentielle, mais il les inscrit dans l'expérience analytique.
Voilà, il les réinvestit et en même temps, il faut quand même dire qu'il les détourne. Parce qu'évidemment, Sartre, dans sa psychanalyse existentielle, enfin, son postulat de départ, c'est quand même de dire qu'on n'a pas besoin de l'inconscient.
Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est ce qui fait le propre des grands penseurs. Quand ils se réfèrent à un autre auteur, il faut les trahir.
Je suis tout à fait d'accord
avec
vous.
Pour éviter d'être simplement des disciples.
Voilà, exactement. C'est ce qui fait qu'il ne répète pas en effet. Il fait un autre usage, il les détourne. Mais en même temps, on sent vraiment que Sartre, pour lui, est un partenaire, un interlocuteur qui lui permet aussi d'avancer parce que finalement les concepts lacaniens comme ceux de, mettons, de manque à être ne se trouvent pas chez Freud. On parle de l'angoisse de castration, on ne parle pas du manque à être. Donc ce manque à être, on ne peut pas ne pas le mettre en rapport avec le manque d'être sartrien.
Bien sûr, manque à être, aussi la métaphore du trou, le trou de néant aussi dans l'être et le néant. Bon, il y a aussi, malgré tout, la filiation Heidegger qui passe par là. Mais...
Bien sûr, oui. Pour Sartre aussi, oui. Tout à fait. Il y a ce rapport, finalement, au vide, à la béance, au manque, hein, qui est une constante de l'élaboration lacanienne. Et finalement, au fur et à mesure de ces séminaires, il y a une nouvelle interprétation de ce manque, mais avec un dialogue avec Sartre qui ne cesse pas.
Oui. Vous parlez aussi de la valeur ontologique de la folie, du lien entre folie et liberté. Alors, là,
alors ça, c'est le tout premier Lacan. Hein. Oui. C'est le Lacan pré-structuraliste. Oui. C'est vrai qu'ensuite, Lacan insistera plutôt sur le fait que la psychanalyse n'est pas un apprentissage de la liberté. Mais dans le propos sur la causalité psychique, il emploie ce terme de liberté et il considère en quelque sorte que la folie est une faille ouverte dans l'essence de l'homme, dit-il à la façon de Sartre, et d'une certaine façon, un choix de l'être contre le manque d'être, donc en fait une impossibilité d'assumer ce manque qui permet aussi la liberté.
Si on revient un peu à l'anecdotique, mais il est aussi intéressant, la relation dans la vie entre Sartre et Lacan est un peu curieuse, parce qu'on a l'impression qu'il y a des attentes d'un côté et de l'autre, et que ces attentes ont toujours été déçues.
C'est assez mystérieux, en fait, parce que finalement, ils sont exactement contemporains l'un de l'autre. En même temps, ils n'appartiennent pas au même moment philosophique. Oui. On peut opposer, comme vous l'avez fait, moment de l'existence, moment de la structure. Mais ce qu'on a pu apprendre très récemment par les entretiens de Sartre avec le journaliste américain Gérassi, c'est que Sartre se serait adressé à Lacan à sa sortie de l'école normale supérieure à cause d'une angoisse qu'il aurait éprouvée se sentant poursuivi par des crabes suite à des prises de mescaline répétées. Donc, bon, il y a quand même des rencontres.
Oui, bien sûr, même si c'est douteux, parce qu'il y a aussi le lien avec la planche à ce moment-là, mais... Bon, et puis il y a aussi d'autres témoignages de Jean Coe qui donnent un portrait peu agréable de Lacan et un mépris de Sartre.
Dans un entretien qu'il a accordé au Cahier de philosophie, ne méprise pas du tout Lacan et dit même qu'il est d'accord Lacan.
Oui, c'est d'ailleurs ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des anecdotes de la vie de l'un et de l'autre, mais d'ailleurs Sartre, sans le dire lui non plus, fait référence à Lacan et a lu Lacan très attentivement dans son dernier ouvrage, L'idiot de la famille.
Oui, je pense que... Enfin, c'est ce que dit Lacan lui-même dans son entretien au Figaro en 1966, quand sortent ses écrits. Je pense que Lacan a davantage lu Sartre que Sartre n'a lu Lacan. Je pense que Sartre s'est assez peu intéressé à la psychanalyse structuraliste et il a rangé le structuralisme, comme il l'a dit, dans les sciences humaines. Et il n'a pas vu en quel sens la psychanalyse permettait aussi de faire quelque chose de ce que les déterminismes avaient fait de nous.
Et la psychanalyse existentielle, ces projets-là, et aussi l'antipsychiatrie à laquelle était lié Sartre politiquement, est-ce que ce sont des choses qui paraissaient un peu illusoires, des leurs, ou intéressantes pour Lacan ?
Lacan ne s'exprime pas de façon très explicite sur l'antipsychiatrie, en tout cas sur la psychanalyse existentielle. Quand il s'exprime à ce sujet, il est plutôt critique. Hein. Mais justement, je pense qu'il faut s'intéresser au sous-sol de son élaboration et au fait que derrière cette critique, il y a aussi une proximité, quelque chose qui est un petit peu dangereux pour la psychanalyse structuraliste, qui est donc cette proximité avec Sartre. Mais en même temps, il s'est vraiment servi des concept sartrien pour montrer aussi en quel sens la psychanalyse finalement faisait référence au structuralisme mais aussi au sujet.
Merci Clotilde Le Guil. Je rappelle le titre de votre livre, Sartre avec Lacan, aux éditions Navarin. Vous pouvez retrouver le journal de la philosophie, le podcaster sur le site de franceculture.fr.
Merci François, les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine spéciale Bac Philo. Après Philippe Ouvrard, ce sera la professeure Marie-Claude Héron qui viendra réfléchir pour vous au sujet suivant: peut-on être heureux dans un monde injuste ? Si vous voulez réécouter cette émission, c'est possible en vous rendant sur le site internet franceculture.fr à la page des Nouveaux Chemins. Vous trouverez également toutes les indications bibliographiques concernant l'émission de ce jour, toutes les indications musicales. Et vous pourrez également télécharger, podcaster cette émission afin de l'installer dans votre ordinateur ou sur votre lecteur MP3 pour pouvoir l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. France Culture, il est 10h59. Dans un instant, vous retrouverez Florian Delorme pour son émission Culture Monde.